Le journal, c'est avec Martin Bartoletti. Bonsoir.
Bonsoir. Durcir la lutte, c'est le mot d'ordre des Gilets jaunes au lendemain d'un cinquième acte clairsemé. Les manifestants envisagent déjà un sixième rendez-vous samedi prochain. Ils s'organisent sur les points de blocage, toujours actifs. La tentative de sortie de crise proposée lundi par le président n'a donc pas suffi. Que peut faire maintenant l'exécutif? Réponse d'Olivier Roucan dans un instant. Il est politologue et constitutionnaliste. Il est une sommité chez les experts du climat et ne cache pas son pessimisme. Jean Jouzet, les catégories qu'il sera difficile de tenir les objectifs de l'accord de Paris. Le climatologue a quand même vu du bon dans la COP24 conclue hier en Pologne. Nous ne sommes pas des mendiants. Les mots de Joseph Kabila sont très clairs. La République démocratique du Congo refuse la main tendue de l'ONU pour organiser la présidentielle. À une semaine du scrutin, la tension monte dans le pays. Le jaune n'est pas la couleur de l'espoir, mais les manifestants mobilisés depuis un mois n'en manquent pas. Au lendemain d'un acte 5 moins rassembleur, les gilets jaunes occupent toujours le terrain. Les mobilisations symboliques des samedis ne doivent pas faire oublier les actions du quotidien. Des ronds-points sont encore bloqués aujourd'hui, notamment dans le nord. Des actions ont été menées sur plusieurs autoroutes. Des péages entre Perpignan et Orange ont été incendiés. Des manifestants déterminés à poursuivre la lutte pour savoir quelle forme peut maintenant prendre le mouvement. Pierre-François Plessis a interrogé un des membres.
Depuis le 17 novembre dernier, Christophe Chalençon écume les ronds-points comme les plateaux télé. Il fait partie des Gilets jaunes libres, ce groupe de manifestants qui avait accepté l'invitation d'Édouard Philippe à Matignon le 7 décembre. Critiqués au sein du mouvement, ces derniers sont dits modérés, pourtant ils sont prêts à durcir la lutte s'il le faut.
Il y a moins de gens, mais les gens aujourd'hui sont plus déterminés. Ceux qui restent sont vraiment les déterminés. Donc c'est soit M. Macron comprend qu'il doit évoluer, soit nous allons vers une radicalisation du mouvement, et là, il y a des gens, je vous le dis, je l'ai entendu sur des ronds-points tout ça, ils en ont marre de se faire matraquer par les CRS, ils en ont marre de se faire gazer, ils en ont marre de perdre des yeux, des morceaux de mâchoire. Donc aujourd'hui, de l'autre côté, on sortit les fusils aussi. Et là, nous allons aller vers une révolution, une guerre civile. Donc nous ne voulons pas ça, nous voulons que le peuple de France aille vers une évolution.
Le ton est dur, les mots sont violents. Pourtant, ce forgeron du Vaucluse l'assure, les Gilets jaunes sont prêts à écouter le président à condition d'un geste fort de la part de l'exécutif.
Aujourd'hui, le seul qui peut arrêter cette marche en avant, c'est M. Macron. Il doit changer de gouvernement et changer de cap. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il doit remettre l'humain au cœur de l'attente et changer de politique. Je vais engager la conversation à partir du moment où nous aurons d'autres personnes que ceux qui nous ont conduits au chaos, c'est-à-dire je n'ai pas conversé avec mon bourreau. Donc je vais converser le jour où Macron aura décidé de changer de cap et de gouvernement avec des gens qui sont vraiment connectés au peuple.
Et les Gilets jaunes réclament une réaction rapide d'Emmanuel Macron, de préférence dès cette semaine, avant l'acte 6 du mouvement, samedi prochain.
Pierre-François Plessis pour France Culture. Les mots d'Emmanuel Macron lundi soir devaient servir à apaiser les tensions, à sortir de cette crise. L'exécutif doit trouver des solutions pour amorcer un dialogue. C'est le bon moment pour lancer le débat souhaité par le chef de l'État. Selon Olivier Roucan, il est politologue et constitutionnaliste.
Je pense que le gouvernement et surtout le président, du fait de son intervention télévisée, ont pris la mesure de l'importance de ce mouvement. Et donc les mesures qui ont été annoncées, notamment celles sur la CSG, peuvent conduire certains personnes au départ mobilisées à trouver qu'elles ont un peu perçu les dividendes de leur mobilisation. Ça, c'est pas le cas notamment d'un certain nombre d'actifs. Autrement dit, pour l'instant, on ne sait pas trop comment début d'année prochaine ce mouvement pourra trouver des suites et sous quelle forme. Le gouvernement, tout ce qu'il peut faire là, c'est de fermement conduire la négociation qu'il a préfigurée, notamment en renvoyant au territoire. Mais je pense qu'il a pas intérêt à laisser les choses dans le flou. Or, pour l'instant, on ne comprend pas trop ce que c'est que cette grande concertation qu'il veut établir dans tout le pays. Il faudrait surtout qu'il ne donne pas l'impression de vouloir noyer le poisson en organisant des concertations qui dureraient trop longtemps. Voilà, il y a quelques axes, on pourrait dire, qui pourraient structurer la discussion et qui devraient déboucher sur des propositions concrètes dont se saisirait le gouvernement, sans quoi toutes ces personnes se sentiront flouées au-delà des questions précises de pouvoir d'achat. Et là aussi, d'ailleurs, il va falloir un suivi très pointilleux.
Le politologue et constitutionnaliste Olivier Roucan qui répondait à David Ravier. Un proche de Cherim Chekat est toujours entendu par la police antiterroriste. Il fait partie des 7 personnes arrêtées après l'attentat de mardi sur le marché de Noël de Strasbourg. La garde à vue de 4 membres de la famille du tireur avait déjà été levée hier en l'absence d'éléments incriminants. Une cérémonie était organisée en fin de matinée au pied du grand sapin de Noël installé place Kléber. Un millier de Strasbourgeois et de touristes réunis à la mémoire des 4 personnes tuées et des 12 autres blessées dans l'attaque. La lutte contre le changement climatique ne va ni assez vite, ni assez loin. Propos tenus cet après-midi par Laurent Fabius, l'ancien président de la COP21. Il dénonce le peu de mesures prises par la 24e conférence des Nations Unies sur l'avenir du climat, terminée hier soir en Pologne. Les 196 États signataires ont validé les outils et les règles à mettre en place pour l'accord de Paris qui doit s'appliquer en 2020. Mais aucune décision n'a été prise pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le climatologue Jean Jouzel ne cache pas son pessimisme.
Oui, je crains de plus en plus qu'il soit très très difficile de respecter l'objectif de l'accord de Paris, y compris l'objectif haut, c'est-à-dire maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. On parle de l'hypothèse d'un degré et demi, ce qui serait mieux du point de vue du climatologue. C'est clair que le rapport du GIEC a montré qu'un climat à 2 degrés commençait à être, disons, avoir des conséquences très importantes.
Donc échec à Katowice.
Bien, disons que un succès quand même, celui de finaliser ce mode d'emploi, ce manuel d'application de l'accord de Paris. C'était important, c'était pas gagné, parce que certains pays auraient souhaité aussi modifier certaines des règles de l'accord de Paris. Ça n'a pas été le cas. Donc on peut considérer que c'est un succès. Il y a eu aussi des avancées sur les problèmes de financement, mais vraiment les perspectives à moyen et long terme, on n'attendait pas vraiment d'annonce sur la remontée de l'ambition.
Oui, mais ça reste technique.
Mais voilà, c'est la politique et la politique ne joue pas en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il suffit de regarder les États-Unis, la Russie, le Brésil, disons aussi l'Australie qui traîne des pieds. Donc on voit bien que la difficulté d'aller en avant si on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre de façon très importante. Donc je pense que ces conférences sont indispensables parce que tous les pays sont affectés par le changement climatique. Donc c'est important qu'ils se retrouvent. Mais disons un mécanisme qui devrait marcher, ce serait vraiment ces émissions sont liées largement à, je dirais, au G20, aux pays développés. Et ce qui pourrait être un mécanisme plutôt intéressant serait que le G20 propose des objectifs d'émission de réduction de gaz à effet de serre et ceci soit mis sur la table lors de ce type de conférence. Mais rien n'arrive de ce type-là puisque les pays développés, disons, se tirent dans les pieds. Vraiment, il n'y a pas du tout de dynamique.
On l'a bien vu, Brésil, États-Unis,
donc
Russie,
c'est extrêmement difficile.
Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du GIEC, au micro de Bernard Thomasson sur France Info. Rendez-vous maintenant dans un an à la COP25 organisée par le Chili. Le pacte migratoire de l'ONU peut-il faire vaciller le gouvernement belge? Plus de 5000 personnes ont manifesté cet après-midi à Bruxelles. Un rassemblement organisé par un collectif d'organisations d'extrême droite et marqué par des violences avec les forces de l'ordre. Ce pacte mondial, signé par 150 pays, dont la Belgique, recense des principes comme la défense des droits de l'homme et des enfants ou de l'intégration des migrants. Ses détracteurs le voient comme un encouragement à un flux migratoire incontrôlé. Dans la capitale belge, quand Quentin Dickinson, les manifestants ont réclamé la démission du Premier ministre.
Oui, et ils ont aussi scandé « Nous sommes maîtres dans notre pays » ou encore « Flandre, oui, migrants, non ». C'est à l'appel d'un collectif que s'est tenue cette marche, qui n'en était d'ailleurs pas une, puisque les autorités municipales et régionales n'avaient délivré d'autorisation que pour une protestation statique au cœur du quartier européen, où se trouve également la représentation des Nations Unies. Ce collectif comprenait des mouvements de jeunesse ultra-catholique, ainsi que des groupuscules de l'extrême droite flamingante, tout cela avec la bénédiction du Vlaams Belang, naguère fantomatique, mais qui parle depuis peu à déborder par sa droite la NVA, parti indépendantiste flamand d'obédience dure, qui paye dans les sondages 4 années de participation à la coalition gouvernementale fédérale. Comme prévu, les orateurs successifs n'ont pas reculé devant une pleine palette d'outrances verbales et au moment de la dislocation, quelques dizaines d'individus ont tenté de pénétrer dans l'immeuble principal de la Commission européenne. Refoulés par des tirs de gaz lacrymogènes, ils se sont repliés dans le désordre, non sans avoir bombardé la façade à l'aide de canettes de bière, vides évidemment. Pendant ce temps, à 4 kilomètres de là, une contre-manifestation rassemblait un bon millier de militants des droits de l'homme et des partis de centre-gauche ou écologistes. Ils étaient venus protéger symboliquement le parc où, en temps normal, sont installées de nombreuses tentes de familles réfugiées. Par prudence, un collectif humanitaire avait lancé un appel entendu à l'hébergement ces jours-ci de ces migrants.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles pour France Culture. La trêve signée au Yémen doit être respectée. L'émissaire de l'ONU exhorte les deux camps à s'en tenir au texte signé jeudi dernier en Suède. Un cessez-le-feu que les belligérants doivent s'engager à appliquer immédiatement, ajoute Martin Griffiths. Ce matin, des tirs sporadiques ont été entendus dans la ville d'Odeida, principal port du pays qui sert à l'approvisionnement de l'aide humanitaire. La nuit dernière, des bombardements dans la région ont fait au moins 29 morts. Depuis 3 ans, ce conflit oppose une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite aux Houthis appuyés par l'Iran. À la reconstruction de la mosquée Al-Nouri à Mossoul a symboliquement débuté. Des responsables religieux et politiques mais aussi des représentants de l'ONU ont posé la première pierre aujourd'hui, un an et demi après sa destruction lors des combats avec le groupe État islamique. Cette mosquée irakienne est emblématique avec son minaret penché surnommé la tour de Pise irakienne dont il ne reste plus rien. Ce projet de reconstruction doit durer 5 ans. Il est financé grâce à une donation de 44,6 millions d'euros des Émirats Arabes Unis. La tension monte encore d'un cran en République démocratique du Congo à une semaine des élections présidentielles. Un nouvel entrepôt de la commission électorale a été attaqué aujourd'hui par un groupe rebelle armé à Beni dans l'est du pays sans faire de dégâts. Il y a quelques jours, 8000 machines à voter ont été détruites à Kinshasa. À cela s'ajoutent les meetings de l'opposition perturbés, les arrestations et les intimidations. Christophe Rigaud du site Africa Arabia suit de près la situation en RDC. Il se demande si le scénario voulu par le partant Joseph Kabila n'est pas un report de ce scrutin.
On a vraiment l'impression que la campagne électorale est en train de déraper avec des violences, des répressions aussi au cours des meetings de l'opposition. Et puis, effectivement, vous l'avez rappelé, cet incendie à la commission électorale qui pose clairement la question d'un possible report des élections. Et c'est un report, en fait, qui pourrait arranger une nouvelle fois Joseph Kabila, parce que il faut se rappeler que Joseph Kabila a déjà repoussé par 2 fois l'élection présidentielle. C'est sous la pression de manifestations populaires, de sanctions internationales qu'il a accepté, en fait, de ne pas se représenter et puis d'organiser ces élections en décembre. Donc on se demande si Joseph Kabila est si sûr que cela de remporter les élections, où il a désigné un candidat pour lui succéder, mais un candidat qui peine en fait à mobiliser là où l'opposition rassemble les foules dans ses meetings. Donc il y a vraiment la question du report qui est une nouvelle fois posée, parce que tous les scénarios sont prêts. Il y a cet incendie, il y a aussi des retards dans le déploiement du matériel électoral, il y a les procès-verbaux papier qui sont encore coincés en Afrique du Sud alors qu'on est à une semaine du scrutin. Donc on a l'impression que la commission électorale n'est pas complètement prête en fait pour ces élections. Et je dirais que même si ces élections ont lieu à la date prévue, on s'achemine quand même vers des élections chaotiques et donc des élections contestées.
Christophe Rigaud du site Africa Arabia, il répondait à Nabila Hamel. Kinshasa veut tenir l'ONU et les Occidentaux à l'écart de ces élections. Les États-Unis ont quant à eux demandé hier aux membres non indispensables de leur personnel de quitter le pays. Bernard Darty, cofondateur de l'enseigne d'électroménager, est décédé à l'âge de 84 ans. Il avait créé la célèbre marque à la fin des années 50. Les premiers magasins dédiés aux postes de radio et de télévision se sont ouverts à Montreuil en 1957. La FNAC a racheté Darty en 2016 pour tenter de faire face à la concurrence du commerce en ligne. Le temps de demain sera plus calme avec des alternances entre nuages et éclaircies. Du Grand Est aux Alpes du Nord et sur la Corse, le ciel sera encore perturbé en matinée. Entre la façade atlantique, le massif central et les Pyrénées, là aussi le ciel sera bien encombré et les averses nombreuses. Le soleil va s'imposer dès le matin du Roussillon à la Provence. Les températures minimales s'échelonneront entre moins 1 et 4 degrés sur le tiers est et le massif central, 3 à 7 degrés ailleurs et comptez 7 à 10 degrés près des côtes.